Intervenu.
Léa Salamé et moi recevons ce matin le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Vos questions, vous êtes très nombreux au standard 01 45 24 7000. Agnès, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue, on vous écoute.
Bonjour à tous, merci bonjour. De m'accueillir. Voilà, je suis retraitée et je viens d'être ponctionnée de 50 euros sur ma pension du mois de janvier. Je refuse d'entendre à nouveau des couplets des culpabilisants sur la solidarité, dans la mesure où cette somme, elle va servir à augmenter le pouvoir d'achat de gens qui gagnent déjà 4 ou 5 fois plus que moi. La solidarité, elle s'exerce vis-à-vis des plus démunis. Ça me paraît davantage ressembler à du racket. Et à du racket discriminatoire vis-à-vis de gens qu'on insulte en les traitant d'inactifs. Alors, j'ai une question à poser à Monsieur le maire, puisque privé de 50 euros par mois, je vais devoir renoncer à des travaux de jardinage et de débroussaillage dans mon jardin. Je vais les pratiquer moi-même. Je comprends d'autant moins d'être traité d'inactif, parce que ça va me demander une activité devenue pénible pour moi.
Bien compris.
Mais je voudrais savoir si c'est vraiment très utile, très profitable à l'économie, de priver des sociétés d'aide
bien
à la
compris.
Personne de débouchés qui risquent de leur manquer très bientôt.
Merci, merci Agnès pour cette question. Je donne la parole à Jacques, puis à Bruno Le Maire. Bonjour Jacques.
Oui, bonjour Monsieur de Morand, bonjour Monsieur le Maire, bonjour Madame Salamé. Ben, c'est un petit peu pareil, moi c'est mon pouvoir d'achat aussi, puisque Monsieur le Maire nous dit qu'il va le maintenir, surtout pour les petites retraites. La mienne était actuellement de 626,15 €. Je parle de la retraite de base. Hein. Elle vient de tomber à 614,65 €. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu un manque aussi encore.
Merci.
Alors,
Jacques.
Mon pouvoir d'achat aussi, voilà.
Merci Jacques pour cette question, Bruno Le Maire.
Je vais faire plusieurs réponses à Agnès et à Jacques. D'abord, la première, c'est pour éviter tout malentendu sur la façon dont nous considérons les personnes retraitées, ceux qui ne travaillent plus, ceux qui ont travaillé toute leur vie et qui vivent de leur retraite. Il y a d'insultes faites à personne. Et il y a de la considération pour tout le monde, en particulier pour ceux qui ont travaillé toute leur vie et qui touchent légitimement leur retraite. Ensuite, il y a un choix politique qui est fait et que j'assume totalement, qui me paraît un bon choix pour la nation française, qui est de dire il faut que ceux qui travaillent puissent avoir une meilleure rémunération. Et là où j'ai un point de désaccord avec Agnès, c'est quand elle nous dit que ça va augmenter le pouvoir d'achat de ceux qui travaillent et qui gagnent 5 ou 6 fois plus que ce que peuvent gagner les retraités. Ça n'est pas vrai. Le SMIC aujourd'hui, c'est 1184 € net par mois. Ça fait pas lourd quand il faut payer son logement, son loyer, ses courses, l'habillement de ses enfants. C'est pas illégitime qu'on dise à tous ceux qui ont ce niveau de rémunération, vous allez gagner un peu plus, grâce effectivement à l'aide des retraités. Donc c'est un vrai geste de solidarité à l'égard de ceux qui travaillent. Et je comprends parfaitement les inquiétudes, parfois la colère de certains qui disent on nous prend 10 €, on nous prend 20 €, mais c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres, c'est pas pour alimenter les caisses de l'État, puisque au contraire
vous,
nous réduisons la dépense publique.
Je
comprends
que
parfaitement les inquiétudes.
Penser ça comme une injustice.
Je le comprends parfaitement. Je dis simplement que c'est juste d'aider ceux qui travaillent et qui ont des salaires modestes à vivre mieux de leur travail. Une réponse aussi, puisque Agnès parlait des aides à la personne, je rappelle aussi que nous avons fait un soutien très important sur les aides à la personne. Nous avons mis en place un crédit pour l'emploi à domicile, c'est-à-dire tous ceux qui ne payent pas d'impôt sur le revenu, qui voudront embaucher quelqu'un et bénéficier de ce crédit impôt à domicile, pourront bénéficier de ce crédit impôt. Ils pourront l'embaucher et avoir un chèque du Trésor public, alors même qu'ils ne payent pas d'impôt sur le revenu. Donc nous voulons avoir une politique qui est équilibrée, mais avec un cap qui reste le même, le travail doit payer.
Vous avez parlé à l'instant du SMIC, Bruno Le Maire. Restera-t-il indexé, comme c'est le cas aujourd'hui, sur le salaire horaire de base des ouvriers et des employés et sur l'inflation? Ou est-ce que vous allez couper l'une des deux jambes?
Non, il n'est pas question de couper une des deux jambes. Il y a un très bon rapport qui a été fait sur le sujet par Gilles Berset qui présente bien les différentes options. Mais je mesure à quel point il est difficile aujourd'hui de vivre avec le SMIC en France. Et je pense que retirer ne serait-ce qu'un des volets de cette indexation, notamment le salaire horaire brut des ouvriers et des employés comme méthode d'indexation, en plus de l'augmentation de l'inflation. Je pense que ce serait très mal compris et que ce serait un message très contradictoire avec celui que nous portons avec le président de la République et le Premier ministre, qui est d'aider ceux
donc
qui travaillent à vivre mieux
pas.
De leur salaire.
On ne change pas la manière dont le SMIC est établi.
En tout cas, je ne le souhaite pas.
Ce qui veut dire ?
Ce qui veut dire que...
Que c'est ouvert encore.
Non.
Si vous ne le souhaitez pas, enfin, je veux dire, on peut répondre non à la question.
Mais le ministre de l'économie et des finances vous répond avec beaucoup de clarté. Je ne souhaite pas que l'on touche à l'indexation du SMIC en France. Ensuite, il y a un État, il y a un Premier ministre, il y a un Président de la République. Il peut arriver que le Premier ministre et le Président de la République prennent des décisions différentes de celles du ministre de l'économie et des finances. Et je respecte parfaitement les institutions. Je dis simplement que dans la philosophie qui est la nôtre, qui est de permettre à ceux qui travaillent de vivre mieux de leur salaire, de leur rémunération. Moi, je recommande de ne pas toucher à l'indexation du SMIC en France.
Léa Salamé.
Trois questions d'actualité, monsieur le ministre. L'accord sur les 28 heures dans la métallurgie allemande, ça fait la une de tous les journaux économiques ce matin. Est-ce que c'est inéluctable d'aller vers ça ? Est-ce que c'est le sens de l'histoire, comme disait François Ruffin ? Et est-ce que cet accord, 28 heures dans la métallurgie, est transposable en France ?
Mais c'est absolument pas transposable en France. Enfin, je voudrais qu'on voit bien les situations économiques de l'Allemagne et de la France. L'Allemagne est au plein emploi. La France souffre du chômage de masse. Et tout mon engagement politique, ce que je fais pour les entreprises, pour l'économie, pour le financement de nos entreprises, pour la formation des salariés avec Muriel Pénicaud, a un seul objectif, c'est de tourner la page de ces 30 années de chômage de masse qui me révoltent. Ça me révolte qu'une grande démocratie comme la France...
Mais baisser le temps de travail, est-ce que ça ne peut pas contribuer ?
On a déjà essayé. C'est les 35 heures. Échec cinglant. Enfin, on s'est pris le mur, mais en pleine face et en klaxonnant. On va repartir en arrière et se reprendre le mur pleine face en klaxonnant. La baisse du temps de travail n'est pas la solution au chômage en France. La solution, c'est des entreprises qui tournent mieux, c'est une meilleure formation, c'est une meilleure qualification, c'est ce que nous faisons. Quand, plus tard, nous serons à 5% de taux de chômage. L'Allemagne est en dessous de cela. Alors là, on pourra peut-être réfléchir à des solutions complémentaires. Mais tant qu'on n'en est pas là, gardons notre cap, compétitivité des entreprises, formation, qualification, croissance.
C'est très clair, c'est non donc. Vous êtes déjà en train de préparer le budget 2019. Les lettres de cadrage pour les ministres ont été envoyées. Est-ce qu'il y aura une baisse des fonctionnaires dans le budget 2019 ou pas ?
Bruno Le Maire.
La baisse des fonctionnaires, elle est prévue. Elle répond là aussi à un cap qui est très clair. 120 000 emplois publics en moins sur la durée du quinquennat.
Ça veut dire combien en 2019 ?
Ça, ce sera décidé dans le projet de loi de finances pour 2018. Aujourd'hui, on y travaille. Moi, ce qui compte, c'est
en
que
en 2018, il
n'y
a pas eu tellement.
Non, il y,
y en a
eu peu, effectivement. Il y a eu un effort très important, je le rappelle, qui a été fait sur les emplois aidés. C'est un choix qui était difficile, un choix tout à fait structurant, de limiter à 200 000 le nombre d'emplois aidés, là où on en a atteint plus de 400 000 dans les années précédentes.
Bruno Le Maire, si vous voulez arriver à l'objectif de 120 000 suppressions d'emplois
nous allons en
ça
discuter,
veut dire qu'en 2019,
compte,
il y en aura massivement.
Ce qui compte, Léa Salamé, c'est que le cap soit tenu sur tous les sujets, 120 000 fonctionnaires en moins, 5 points de dette publique en moins, 3 points de dépenses publiques en moins, 1 point d'impôt en moins sur les Français. C'est là où nous devons en être en 2022 et je me porte garant de ces engagements du président de la République.
Mais vous ne voulez pas nous donner de chiffres ce matin sur la baisse des fonctionnaires ?
Parce que je ne peux pas vous dire en 2019 quelle sera exactement la trajectoire à 100 ou 150 fonctionnaires.
Même une fourchette.
On retourne au standard. Bonjour Alain.
Bonjour à vous.
Bienvenue.
Bonjour à vous tous. Bonjour, merci. Il y a plein de choses à dire par rapport à ce que dit Bruno Le Maire. Donc, je vais poser une question et je vais peut-être une deuxième question. La première, c'est est-ce que M. Bruno Le Maire confirme ce qu'il a dit, à savoir, avec 1200 euros par mois, on vit pas mal. Et la seconde question que je lui pose, comment fait-il pour récupérer les 800 millions d'euros qui se baladent tous les ans, enfin qui partent tous les ans, se faire bronzer dans les paradis fiscaux. Voilà, il y aurait plein de choses à dire et je ne vais pas trop vous embêter. Je vous souhaite à vous tous une bonne journée et puis une bonne année, c'est peut-être encore
oui, trop tard. On va prendre le temps en tout cas de le faire. Merci beaucoup Alain, 1200 euros pour commencer, les paradis fiscaux ensuite.
Oui, alors Alain, qui n'est pas d'incompréhension, hein, je redis très clairement ce que j'ai dit. Je pense qu'il est difficile de vivre aujourd'hui en France avec le SMIC. notamment lorsqu'on habite une grande agglomération où les prix du logement sont très élevés, c'est pas facile. Et comprenez-moi bien, je n'ai jamais dit qu'il était facile de vivre avec 1200 euros par mois. Au contraire, je pense que c'est difficile. Et c'est bien pour ça qu'il faut augmenter la rémunération de ceux qui travaillent.
Sur les paradis fiscaux,
nous avons, avec Gérald Darmanin, renforcé la lutte contre les paradis fiscaux. J'ai porté au niveau européen la liste des paradis fiscaux, la liste noire des États qui ne coopèrent pas. Je plaide pour que cette liste soit sortie de sanctions. Nous en avons parlé avec le commissaire européen Pierre Moscovici il y a quelques jours. Donc nous sommes totalement déterminés,
Amazon paye ses impôts en France, mais surtout
à faire payer ceux qui doivent payer.
On fait un événement de moi ce qui me semblait être tout à fait normal, à savoir payer ses impôts.
Et surtout, Nicolas Dormoran, que moi je souhaite aller beaucoup plus loin.
Oui, alors donc Amazon les paye. Est-ce qu'on peut avoir de manière progressive. Est-ce qu'on peut avoir déjà une idée de ce que paye comme impôt Amazon en France suite à l'accord trouvé avec le ministère?
Non, je n'ai pas le chiffre. Il y a un secret fiscal, donc je ne peux pas vous donner ce chiffre-là. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un accord qui a été trouvé.
Tellement d'entreprises, mais pas pour Amazon. Est-ce que le secret était une condition de l'accord?
Ce que je connais, c'est le chiffre d'affaires d'Amazon, de Google, de Facebook et d'Apple. Le total de la capitalisation de ces entreprises, c'est plus de 3 fois le PNB, la richesse nationale de la nation française. Donc ce qui compte pour moi, c'est pas simplement qu'on règle les problèmes fiscaux passés, ça c'est très bien.
Ça, c'était 2006-2010.
Parfait.
Et pour 2010-2018.
Et bien justement, ce qui compte pour moi, c'est que désormais, les géants du numérique payent les impôts qu'ils doivent payer en France, en Allemagne et en Europe. C'est un combat que je livre depuis des mois. Qu'il y ait une juste taxation des géants du numérique.
Qui est le prochain sur la liste après Amazon?
Mais tous les géants du numérique doivent payer de justes impôts en France et en Europe. Comment est-ce que vous voulez expliquer à la PME de Vannes?
Mais là-dessus, on est d'accord. Mais vont-ils le faire? Et sur quel calendrier?
Eh bien, le calendrier, c'est au maximum, à mes yeux, 2 ans. Si, en mars prochain, la Commission européenne ne nous présente pas une proposition législative ambitieuse, ce sera un échec pour l'Europe. Mais je compte sur Margrethe Vestager, sur Pierre Moscovici, sur Jean-Claude Juncker. Je sais qu'ils sont aussi déterminés. Nous devrions avoir une proposition législative ambitieuse. Je souhaite qu'elle soit adoptée au début de l'année 2019 pour être effective d'ici au plus tard 2 ans. Pour que l'Europe montre qu'elle est capable de défendre ses propres valeurs et ses propres intérêts. L'Europe, ça n'est pas l'inspiration économique des États-Unis ou l'inspiration économique de la Chine, c'est son propre modèle économique. Et dans notre modèle économique, on paye ses impôts quand on fait des bénéfices.
Ça vaut valable pour les PME citoyens, de province, ça. Pas et pour ça les vaut, multinationales
mais justement,
numériques.
Mais justement, ça doit valoir aussi, par souci de justice et aussi par souci d'efficacité, pour ceux qui ont des milliers de milliards de dollars de capitalisation.
Avec la fin, ou en tout cas la réforme des taux, des seuils de revente à perte dans les supermarchés, l'UFC Que Choisir estime que l'inflation va bondir entre 0,7 et 2%. Et la facture par ménage, en plus pour faire des achats alimentaires, serait de 177 euros. Est-ce que ce calcul est bon? Est-ce que vous le validez?
Non, je ne le valide pas. On fera d'autres calculs. Moi, je ne le valide pas parce que l'augmentation du seuil de revente à perte, il doit porter principalement sur les produits agricoles frais produits en France.
Bien
donc,
compris.
Moi, je suis prêt à faire des comparaisons avec UFC Que Choisir, qui fait un travail très utile, mais je ne valide pas ces chiffres.
Ils sont faux.
Je ne dis pas qu'ils sont faux. Je dis que nous, notre évaluation,
elle sera
c'est qu'en concentrant, l'augmentation du seuil de revente à perte sur les produits frais, les produits agricoles français, nous n'aurons pas une augmentation du panier moyen aussi importante que celle que l'UFC Que Choisir.
Mais le panier moyen va augmenter.
Mais le panier moyen, il y a une inflation, donc le panier moyen, il augmente régulièrement.
177 euros, c'est énorme.
C'est bien pour ça que je ne le valide pas et que je suis prêt à faire toutes les comparaisons avec UFC Que Choisir. Quels produits est-ce qu'ils ont pris? Quelles augmentations est-ce qu'ils ont prévues? Je pense que nous n'arriverons pas aux mêmes évaluations.
Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, merci d'avoir été au micro de France Inter depuis 8h20. Il est 8h56.